Ça se comprend ?
Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend.
C'est vraiment très intéressant.
C'est un spécialiste.
Ah ouais, ça m'étonne rien.
N'importe quoi. Oui, mais non.
Tout de même invraisemblable.
Ça, c'est bon.
Si je peux me permettre, je suis un peu délai de tout le monde.
Pardon ?
C'est bon, ça.
C'est agréable.
Ça se comprend.
T'as compris ?
Ça se comprend.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour Nathalie.
Bonjour Claire, bonjour Henri.
Bonjour.
Comment estás? Todo
muy bien?
Muy bien. Muy bien. Alors nous disons aussi bonjour à Alex, nous le saluons également.
Ah oui, un pompier de Perpignan apparemment. Bref, bonne journée.
Aujourd'hui, dans l'émission Ça se comprend, nous recevons en direct sur le plateau Manosquin de Fréquence Mistral Claire Farco et Henri Cartman, respectivement peintres et photographes, à l'occasion d'un événement qui se tient à Pierre Vert, l'exposition Dialogue, des peintures de Claire Farco d'après des photographies de Henri Cartman, du 26 avril au 4 mai à la voûte des Arts.
On précisera, Nathalie, que le vernissage se tiendra samedi prochain, donc après-demain, à 17h. Alors Henri, cette exposition, enfin, on peut dire ça en un mot, tout est de votre faute.
Eh oui, oui, c'est tout à fait de ma faute. D'abord, bon, les photos sur lesquelles Claire a peint, c'était des photos que j'ai prises en Andalousie, parce que ma femme a des attaches là-bas, et donc on y allait régulièrement. Et puis, moi, je fais souvent des photos très concrètes, on voit que c'est réel, mais qui sont abstraites, parce qu'au premier regard, on ne voit pas ce que c'est. Donc j'ai photographié pendant 10 ans une vieille serre agricole qui se dégradait. Au départ, il y avait un peu des bouts de plastique, des fils de fer, des poteaux. Et puis, au fil du temps, tout se dégradait. Il n'y avait presque plus que des fils plastiques. Ça faisait quelque chose de très abstrait. Et donc, pendant une dizaine d'années, à peu près 3 fois par an, j'allais photographier cette serre. Et puis, à l'époque, c'était en argentique. Hein, c'était des diapositives. Et puis, un jour, je suis arrivé, la serre n'était plus là. Donc, j'étais un peu... Je ne savais pas trop quoi faire. Ma femme m'a dit, mais ça veut dire qu'il faut que tu en fasses quelque chose maintenant. Donc, j'ai commencé à faire des tris et tout ça, dans l'optique d'en faire un livre. Et puis, c'est très compliqué de faire un livre photographique, c'est très cher, tout ça. Donc, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais bon, j'ai commencé à prendre des noms d'éditeurs et tout ça. Et puis, à l'époque, à Fort-Calquier, il y avait 2 éditrices qui venaient de démarrer et qui connaissaient un peu mon travail et tout. Et ça s'est fait très facilement, très rapidement. 6 mois après, donc c'était les éditions de l'Envol à l'époque. Le livre est sorti à 3000 exemplaires. Maintenant, il est épuisé, il n'y en a plus. Mais ça date d'il y a une vingtaine d'années, hein. Et donc j'avais ces photos et j'avais des grands tirages que j'avais exposés à l'époque. Et puis alors, d'autre part, Claire, donc on s'est connus à Pierre Vert parce que moi je suis un des fondateurs des Nuits photographiques de Pierre Vert. Et au début on faisait beaucoup d'ateliers avec les enfants pour essayer d'animer un peu le village et puis créer un lien avec les habitants. Et puis Claire animait un atelier d'art graphique, voilà,
Land Art,
voilà. Et donc on s'est connus à cette occasion, je crois que j'ai fait des photos même de tes trucs de Land Art, si je me souviens bien, voilà. Et donc on s'est un peu perdu de vue, on n'était pas toujours en rapport, mais j'avais ce qu'elle faisait, je regardais un peu. Et puis un jour, donc, dans l'atelier qu'elle a créé à Manosque, j'ai vu qu'elle peignait sur des livres, sur des pages de livres, quoi. Et donc du coup ça m'a un peu tilté parce que moi, j'avais une amie qui faisait ça, qui faisait de la photo et qui repeignait sur ses photos. Moi, je suis nul en peinture, donc ce n'était pas question que je le fasse, mais l'idée m'avait plu et donc j'ai proposé à Claire de le faire. Elle a été très enthousiaste tout de suite et puis voilà, c'était parti.
Bon, avant de parler de cette exposition, enfin de votre relation, pourquoi ce thème de cette serre qui se dégrade ? C'est le passage du temps ? C'est la rouille ? C'est l'absence ?
C'est encore plus que ça, oui, parce que moi, j'ai toujours fait ça, donc ma première expo c'était en 1969, donc vous voyez, vous situez un peu. J'ai toujours fait des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on voit que c'est net. Moi je suis pas du tout un fervent du flou, du bouger, de trucs comme ça me plaît pas, je veux que ce soit net. Mais en même temps, par le cadrage ou par la manière de faire, je veux qu'au premier regard on sache pas ce que c'est, que ce soit plutôt des photos interrogatives, parce qu'en fait, le fond du fond de ce que je fais, c'est ça, c'est est-ce que tout ça a un sens, voilà. Donc je fais toutes sortes de choses, mais toujours dans ce style-là, quelque chose d'abstrait.
Mmh. Oui, d'ailleurs, nous étions rencontrés au mois d'août dernier pour votre exposition Le Monde à l'envers, qui était aussi à Pierrevert dans un autre lieu. C'était le musée de
la vigne et du vin.
De la vigne et du vin. Une vraiment très belle exposition où là, le traitement était le négatif de la réalité, en quelque sorte.
C'est ça, c'était tout à fait ça. Alors, c'était un peu à la suite du Covid, de tout ça. Le monde était un peu chamboulé. Et puis, j'étais tombé sur les pancartes retournées dans les villages. Et ça avait fait le titre. J'ai dit, oui, mais parce que ça voulait dire, est-ce que le monde marche sur la tête, voilà. Et donc, j'avais beaucoup de photos de paysages, parce que moi, je fais essentiellement du paysage. Et j'ai eu l'idée d'essayer de faire des négatifs. J'avais déjà fait des essais comme ça, mais tout au début, plutôt de nature morte. Mais ça se faisait, j'ai rien inventé. Hein. Man Ray faisait ça en 1920, c'était pas... Mais bon, du coup... là, c'était vraiment les paysages de mon environnement immédiat, autour de ma maison, mais en négatif, et ça fait tilt auprès de beaucoup de gens.
Ah oui, c'est voilà. Très beau, très, très poétique et légèrement inquiétant, mais dans un bon sens, une autre planète, hein, presque. Voilà. Alors, pour revenir à cette exposition, Claire, comment vous a été présenté le projet? Qu'est-ce que vous a dit Henri, en fait, au début?
Alors, Henri, il est arrivé, il m'a proposé donc un projet commun, avec une série de photos, sans me dire de laquelle il s'agissait au départ. Donc, évidemment, j'étais super enthousiaste dès le début. Et il m'a dit, t'as carte blanche. Donc, ok, aïe. Carte blanche. Donc ça, c'était une première information. Et il m'a dit, je t'envoie par mail ce à quoi je pense. Donc, je reçois le mail. Et en fait, là, j'étais très, très contente parce qu'il se trouve que c'est vraiment la série d'Henri que je préférais, en fait. C'est par cette série-là que j'ai découvert son travail. J'avais vu le bouquin à l'époque et tout, et ça m'avait vraiment parlé. En plus, l'Andalousie, c'est une région que j'aime beaucoup.
Il n'y a pas de hasard, alors.
Il n'y a pas de hasard. Et puis, les couleurs, la beauté des contrastes, des matières... un peu des effets textiles aussi qui me parlaient aussi, qui résonnaient pas mal avec ce que j'avais fait avant aussi. J'étais super contente parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, il a fait exprès, il peut pas savoir. C'est pourtant, voilà, c'était vraiment la série que je préférais. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et puis, donc voilà, donc cette carte blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte à la base et que je devais donc m'en mettre moi-même. Alors évidemment, il y a des contraintes techniques qui sont inhérentes à ce support. Hein. Contraintes techniques, il fallait que je trouve la bonne technique, le bon médium qui fonctionne sur ce support, sur ces deux types de supports.
Parce qu'il y a le support, deux types de papier. Ce sont des grands
tirages. C'est des grands formats.
Des tirages...
Ouais. 60-90,
les plus grands
et 50-70.
Voilà, voilà. Pour des photos, c'est quand même...
C'est quand même pas mal.
C'est pas des photos, c'est du...
Voilà, alors justement, c'est pas tout à... les très grands formats, c'était des choses qui avaient été faites... par un labo à Marseille, parce que ça avait été exposé au moment du Forum de l'eau qui avait eu lieu à Marseille il y a quelques années. Et donc, c'était pour aller à l'extérieur et tout ça. Donc, c'était un peu des choses qui... un peu plastifiées. Et donc, pour Claire, c'était compliqué parce qu'il fallait que ça accroche dessus. Le reste, c'était des tirages photos. Ça a été plus facile pour
oui,
toi. Voilà.
Oui, oui. Donc, il a fallu que je trouve le médium adapté. Ça a été la gouache ou l'acrylique. Sauf qu'en fait, c'est pas comme du papier que je peux moi-même décider de découper, d'agrandir, de réduire ou de recommencer et de jeter.
Et en plus, il y a un seul tirage,
j'imagine. Il y a un seul tirage,
exactement.
Vous n'en
avez pas 12 dispositions.
Voilà, donc il fallait aussi que je trouve un médium qui me permette quand même de faire des ajustements, éventuellement d'effacer pour recommencer. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait, de trouver déjà qu'est-ce que j'allais faire dessus sans aucune contrainte. Je voulais qu'on continue de voir vraiment la photo, les détails, les couleurs. Donc ensuite, ma deuxième contrainte, ça a été de vraiment travailler sur la couleur pour qu'il y ait une harmonie en fait qui reste au sein de la photo et de la peinture, que ce soit un peu fondu, puisque je voulais pas couvrir les photos. Évidemment, moi, je voulais avoir une touche la plus discrète possible en fait et que les deux visions se mêlent. Donc c'était ça qui était un peu compliqué. C'était d'aller trouver en fait dans ces photos qu'est-ce qui allait résonner en moi pour trouver quelque chose à ajouter qui fasse sens sur la photo en fait.
Mais garder rester dans l'abstraction, j'ai du mal.
Alors non, justement, moi je fais très peu d'abstrait. En fait, je travaille énormément sur les visages et le corps. C'est vraiment le cœur de mon travail. Et c'est simple, en fait, dès que je regarde quelque chose ou que je dessine spontanément, il va avoir un regard, il va avoir un visage ou un corps. C'est, en fait, c'est comme ça, je ne peux presque pas le décider.
Donc vous avez choisi de mêler vos deux univers.
Ah oui, au
contraire. Henri, toi, tu es très abstrait.
Très, voilà.
Plutôt figurative, oui. Et donc c'était de marier les deux, ça a été, ouais. C'était un beau challenge.
Ah, oui. C'est ça, trouver une harmonie.
Ce qu'on voit sur votre photo qui sert de support aux flyers et aux affiches, c'est pas de l'hyperréalisme en même temps, toute cette partie-là.
Ah non, mais là c'est une photo de Claire en train de peindre.
Ouais, oh, oui. Alors là, j'ai cru que c'était... Voilà, alors là, vous avez réussi votre coup, hein. Voilà. Je me suis fait avoir.
Ah, moi aussi, je
pensais... Et un très beau visage.
Voilà, justement.
Voilà, donc c'est vrai qu'une fois que j'ai trouvé le médium, il fallait que je trouve les bonnes couleurs. Donc ça, c'était tout un travail très technique aussi pour approcher vraiment les couleurs de la photo. Et puis après, il fallait que je trouve le sujet. Et donc ça a été des heures en fait de réflexion, de regard tout simplement des photos. Je les ai tournées dans tous les sens. Et j'ai laissé venir en fait les choses. Alors selon les photos, c'était plus ou moins évident. Mmh. Je voyais tout de suite quelque chose, un visage,
un corps.
C'est un sujet
différent par photo.
Oui, tout à D'accord. fait. Et parfois, j'ai passé vraiment des heures à me dire, mais qu'est-ce que je vois, en fait ? Est-ce que c'est du plastique ? Est-ce que c'est un voile ? Est-ce que c'est un tissu ? Est-ce que c'est quelque chose qui cache autre chose ? Est-ce qu'il y a un visage qui apparaît, qui est construit, déconstruit, scarifié parfois, selon les effets, en fait, de la photo ? Il y avait plein de choses à explorer, plein de textures différentes. Donc, ça a été un long travail, mais passionnant et assez... plus profond que ce que je pensais.
Oui, ça a peut-être fait appel. Vous avez dû explorer vos ressentis aussi, non ?
Mais complètement, ouais. En fait, il y a eu des fois où je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'est ça qui sort, quoi ? Qu'est-ce qui est venu toucher en moi ce visage ou ce corps-là ? Voilà, c'était assez profond comme expérience.
Et pour moi, c'était vraiment aussi une expérience parce que donc ce que je fais, c'est vraiment abstrait. Et alors, Claire, elle a ajouté quelque chose de charnel, même de sensuel pour certaines et tout. Et c'était un autre univers. Et c'est assez, ce qui est assez amusant, c'est que la plupart du temps, ce qu'elle a fait, c'est pas du tout dans le sens où j'avais fait
c'est
ma photo.
Ouais.
Elle les retournait dans un sens, dans l'autre. Il y avait un petit côté test de Rorschach, là, tu sais, un petit analyse, où on voit une image, qu'est-ce que ça vous évoque. Mais il y avait un peu ça
Absolument.
Là-dedans.
Hein.
Et à chaque fois qu'on se voyait, je lui disais lâche-toi, parce que je sentais bien qu'elle était un peu sur la retenue, qu'elle voulait pas trop qu'on voit son travail par rapport au mien ou des choses comme ça. J'ai dit non. Vas-y, moi, en tout cas, je suis absolument ravi du résultat.
Elle a trouvé la justesse, vous avez trouvé la justesse, Claire.
J'espère.
Comme au même titre qu'un auteur voit sa chanson interprétée par quelqu'un,
absolument.
Il découvre des choses, que ce soit une émotion à laquelle il n'avait pas pensé.
Ça m'arrivait souvent dans mes photos, quand j'expose et tout ça, les gens me disent « moi je vois ci, moi je vois ça », des choses que je n'ai pas vues moi. Hein. D'ailleurs, même dans l'expo que vous aviez vue l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui voyaient des choses différentes de ce que j'avais vu moi. Mais c'est parfait. C'est
mais en même temps, c'est ce que tu voulais.
Oui, tout à fait.
Parce que si tu le dis justement que le spectateur s'empare... et
Claire, elle s'est lâchée, comme je lui disais, c'était bien.
Et Henri, est-ce que vous avez eu la surprise de tout découvrir en même temps ? Vous avez eu
j'en ai vu petit à petit, parce que certains, ça a été assez facile, je pense.
Oui. Hein,
voilà. Donc elle en a fait quelques-uns assez rapidement. Après, il y en a d'autres où c'était très, très compliqué.
Très
je me disais, on n'est pas pressé, on a le temps, voilà, tout va bien. Et voilà, et finalement... Elle voulait quand même qu'il y ait une deadline pour se motiver pour finir.
Oui, c'est important
ouais, d'avoir
cette contingence-là.
Voilà.
C'est
absolument.
Important. Oui. Et puis, vous deviez être peut-être un peu inquiète aussi au début de ce qu'Henri allait en penser.
C'est ça. Donc, en fait, ça fait quasiment 2 ans hein, qu'on a commencé le projet. Et moi, j'ai souvent des phases un peu très créatives où ça va très vite et je vais créer plein de choses en quelques semaines. Pardon. Et puis, des fois où il y a des mois où rien ne se passe. Donc, je ne pouvais absolument pas envisager l'idée de tout faire et de lui montrer à la fin. C'était pas possible. Et je pense que les peintures du début sont probablement plus discrètes, plus fondues, en fait, dans les photos. Et au fur et à mesure que je voyais aussi qu'Henri était super enthousiaste, je me suis dit, bon, OK, je pense que je peux aller un peu plus loin et prendre un peu plus de place sur la photo.
Ouais, ouais.
Voilà.
Alors, je vais vous demander un exercice très difficile à la radio, ce serait de décrire... Une œuvre emblématique de cette exposition, laquelle vous choisiriez d'abord ?
Je pense qu'on choisira la même.
Voilà.
Ah, ben ça déjà,
alors,
c'est réussi. Alors.
C'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Ça s'appelle Ophélie in the Sky. En fait, c'est une photo d'un bout de serre. Hein. Il y a une sorte de grillage, il y a un gros rayon de lumière, en fait. Et puis, ça ressemble en même temps à de l'eau, peut-être, ou à... Voilà, c'est assez flou, mais il y a beaucoup de contrastes de couleurs.
Quels sont les... Quel ton ?
Il y a du bleu, du jaune, du vert. En général, c'est un petit peu toutes les couleurs.
C'était quand même
de
l'image emblématique de la série, parce que c'est l'image dont je m'étais servi pour la couverture du livre. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment l'image qui montrait vraiment ce que je voulais montrer.
Mais ça, je ne me souvenais plus. Hein,
ouais, voilà.
Voilà. Et celle-ci, je l'ai retournée dans tous les sens. Hein. Je voyais quelque chose, mais en fait... Parce qu'en fait, parfois, je voyais des choses et je me disais, oh, je verrais bien faire tel corps, telle figure, etc. Sauf qu'en fait, ça rentrait pas dans le cadre. Donc, je pouvais pas mettre de visage. Donc, il fallait que je change et que je trouve autre chose. Donc là, c'était là où c'était le plus compliqué. Quand moi, je voyais quelque chose, mais que je pouvais pas le réaliser. Donc, il fallait que je transforme. Donc là, ça a été très long. Et une fois que j'ai trouvé, en fait...
Après, ça s'est imposé comme une évidence.
Ça s'est imposé comme une évidence. Et en fait, je me suis servi d'une référence de peinture des pré-raphaélites. Donc, en fait, c'est la peinture qui s'appelle Ophélia. Donc, d'après une œuvre de Shakespeare. Donc, c'est un mouvement anglais du 19e.
Un peu kitsch, non, quand même.
Très poétique, ouais.
Théâtral.
Et puis assez réaliste.
Une tragédie, quoi.
Tragédie, quelque chose comme ça. Et donc là, ça représente en fait une femme qui est morte dans un fleuve, en fait.
Ouais.
Oui. Voilà. Donc j'ai reproduit avec ma vision cette Ophélie, je l'ai retournée dans l'autre sens, puis je l'ai évidemment transformée. Mais c'est vrai que j'y ai passé au niveau technique. C'est là où j'ai passé aussi le plus de temps. J'y ai vraiment passé des semaines, en fait. Et après, quand je rentre dans une peinture, je peux y passer autant des heures que 10 minutes. Il y en a qui ont été faits en 10 minutes. Quoi. Oui,
donc, celle-ci est à la gouache ou à la acrylique ?
À la gouache. D'accord. Aussi.
Oui, ça va bien avec le thème de l'eau, la gouache, d'ailleurs.
Ouais. Oui, alors, c'était, de toute façon, l'acrylique, j'en ai fait une, mais c'était compliqué parce que c'était beaucoup plus difficile à effacer.
Et ça sèche très vite,
en fait.
En fait,
la technique que j'ai utilisée aussi pour toute cette série avec la gouache, c'est ça qui était génial, c'est que je pouvais faire un visage ou un corps, donc je détaillais vraiment tout ce dont j'avais besoin pour que ce soit OK pour moi, on va dire. Et ensuite, je venais effacer certains endroits pour qu'on retrouve en fait la photo un peu plus. Et que les deux visions se mêlent en fait pour que l'histoire soit cohérente entre les deux et qu'on retrouve quand même bien autant la peinture que la photo. Donc cette technique-là, je pouvais le faire qu'avec la gouache pour pouvoir revenir effacer. Parfois, j'ai effacé quasiment tout. J'ai tout fait, puis laissé juste un œil. Voilà, c'était...
Ah, vous nous mettez l'eau à la bouche, en tout cas.
Et cette photo, au départ, avant l'intervention de Claire, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Henri ?
C'était vraiment celle qui symbolisait toute cette série, parce que donc, j'avais choisi pour la couverture du livre, à la fois à cause de la complexité, parce que, en fait, dans ces serres, je suis un spécialiste, il mettait beaucoup de filets pour que les pollens ne se mélangent pas. Et donc, il y avait à la fois des bouts de plastique qui restaient, des filets effilochés, du fil de fer, le ciel derrière.
Plus la lumière dans
voilà,
tout ça.
Donc, j'ai oublié de vous raconter ça, parce qu'en fait, ces photos, c'est aussi... Donc, c'était très, très simple. Hein. Moi, la plupart du temps, j'étais allongé, je photographiais le truc au-dessus de moi, à la tombée du jour, pour qu'il y ait encore un peu le soleil dans les plastiques au-dessus, mais que le ciel soit déjà sombre. Mm-hmm. Pour que, voilà, Nathalie, qui fait de la photo, comprend ce dont je parle. Et donc, là, il y avait tout un mélange à la fois de plusieurs matières, de plusieurs couleurs, et c'était un peu plus complexe que les autres photos, et ça correspondait bien à ce que je voulais faire, voilà.
Oui, tu me disais.
Non, je disais rien du tout. Je faisais un signe avec les yeux.
Avec les yeux.
Pas très, très radiophonique. Parce que je pense qu'on va passer un peu de musique.
Ah, chouette alors. Alors, chouette. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Comme d'habitude, des chanteurs et chanteuses que je déteste. Non, c'est une actrice que j'aime particulièrement. Enfin, une actrice d'ailleurs, oui. Auteur, il s'agit de Janelle Monáe, M-O-N-A-E. Le titre est Waterslide. Un titre de 2023. Janelle Monáe, c'est une auteure et compositrice, chanteuse, actrice, qui, à mon sens, est l'une des artistes féminines américaines les plus douées, et parue en 2023 sur l'album The Age of Pleasure, l'âge du plaisir. Nous allons entendre Waterslide, une célébration exubérante de l'amour propre, de la sensualité, de la liberté, et elle utilise ici des métaphores aquatiques pour explorer les thèmes de la libération sexuelle et du plaisir, rien que ça. Compte tenu du parcours personnel provocateur et ouvert de la chanteuse, alors ça je l'ai pris sur sa bio, l'album The Age of Pleasure célèbre la bisexualité, la jeunesse, le plaisir de son corps et l'amour propre, parce que elle est proud, comme on dit en anglais, elle est extrêmement fière et elle le mérite. Alors pour ceux qui seraient intéressés, je vous recommande vivement le visionnage de son incroyable performance en ouverture des Oscars 2020, où elle a chamboulé l'assistance des stars hollywoodiennes, habituellement blasées, mêlant à la fois le traditionnel entertainment à l'américaine, à la puissance provocatrice de ses textes et de son interprétation. Voilà qui est dit.
C'est le printemps.
Waterslide, Janelle Monáe.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Mistral, ou peut-être que vous venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Ça se comprend. Alors, sur le plateau, depuis 11h en direct, nos invités sont Olivier, je te laisse les présenter à nouveau.
Oh ben, qui êtes-vous?
Alors, je m'appelle Henri.
Oui, c'est ça. Je le présente, il s'appelle Henri, donc évidemment. Henri Cartman, photographe plasticien, et la peintre Claire Farco, qui nous feront vraiment la joie et l'honneur d'être présents parmi nous. Et ben, puisqu'on en est aux présentations de nouveau, on va demander à Claire, quel est votre parcours, Claire? C'est un peu compliqué comme question, mais...
Oui, un petit peu compliqué. Toujours, je pense, comme les personnes qui... de la création, il y a des périodes créatives, d'autres moins, dans la vie aussi, il y a pas mal de changements. Moi j'ai commencé assez tôt, puisque bon, quand j'étais au lycée, je faisais déjà de la peinture, du dessin.
Sur Manosque,
et puis je suis allée en fac d'art plastique à Aix, où je trouvais pas trop mon compte pour le coup, et je revenais toutes les semaines à Manosque à la MJC pour faire du dessin avec Cassiane Colodige, qui à l'époque était prof de dessin de modèle vivant à la MJC. D'ailleurs, s'il m'entend, je lui passe grandement le bonjour et le remercie pour tout ce qu'il m'a transmis, parce que c'était très important pour moi cette période-là. C'est là en fait où j'ai compris que j'avais vraiment quelque chose à faire dans ce secteur, quoi, enfin dans le dessin. J'ai vraiment passé du temps à observer, dessiner, essayer de comprendre en fait ce qui se passait dans le corps, aussi bien dans le mouvement que dans le voilà, le volume, les ombres, les lumières, enfin tout ce qu'on peut étudier quand on commence à faire du dessin et à observer.
Votre prédilection, vous aimez, c'est vraiment travailler sur les corps.
Hein. Oui, c'est vraiment ce que je préfère. Si je pouvais faire
c'est
du
l'essentiel
modèle
de
vivant,
votre travail.
C'est pas l'essentiel de mon travail parce que je fais aussi du paysage, pour le coup, qui tend un peu vers l'abstraction, en aquarelle beaucoup. Je fais aussi beaucoup de fleurs, en fait, au printemps. Je dessine beaucoup des fleurs, en fait. Je le fais qu'au printemps, mais voilà, je dessine beaucoup de fleurs aussi. Enfin, je peins des fleurs plutôt. Mais après, oui, c'est le visage et le corps. C'est vraiment ce dans quoi je trouve le plus de satisfaction.
Qu'est-ce que
sens.
Vous recherchez?
Je cherche, en fait, l'état du modèle et mon état aussi
émotionnel
en même temps. Voilà, donc je pense qu'en dessinant... avec justesse, pas forcément tout le corps, mais si c'est bien senti et qu'il y a une sorte de justesse dans la ligne, qui en même temps peut être un peu déformée parfois, je trouve qu'on arrive à voir exactement en fait, quel est le sentiment intérieur du modèle, juste parfois avec le mouvement ou la posture d'une main ou d'un pied. Donc ça, c'est mes deux... C'est les extrémités que je préfère dessiner.
C'est très compliqué.
C'est plus
hein.
compliqué, mais
c'est
en fait, moi, j'aime bien mettre en difficulté. Je déteste la facilité dans le dessin. Je vais toujours me positionner en raccourci. Je vais aller chercher les endroits les plus compliqués parce que ça m'ennuie sinon profondément. Je m'ennuie assez rapidement dans ce que je fais.
Oui, c'est une belle
c'est
aventure, le
ça,
challenge.
Oui, voilà. C'est aussi pour ça que je change souvent de technique. Donc, voilà, parfois, on va me dire « Oui, vous êtes aquarelliste ». Non, je ne suis pas du tout aquarelliste. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis aquarelliste parce que c'est une technique très, très compliquée. Donc, je fais beaucoup d'aquarelles, mais je fais aussi du fusain, je fais aussi de la peinture. En fait, j'ai besoin de me renouveler. Et souvent, si je sens que je n'arrive pas à avancer dans une technique, en fait, je change et je repasse sur une autre pour retrouver de la spontanéité. Sinon, je m'ennuie et je vois que ça ne marche pas.
Vous avez
pas.
Besoin d'explorer. Vous disiez que vous aimeriez dessiner à partir de modèles vivants.
Oui, en fait, ce que
vous
je,
ne le
c'est
pas.
Ce que je préfère. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'époque, justement.
D'accord.
Et là, voilà, j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à faire et que ça me parlait, que ça marchait bien. Donc, j'ai commencé mes études. Je suis allée en art appliqué. Puis, je me suis spécialisée en textile parce que c'était là, en fait, où il y avait encore le plus de possibilités d'exploration, justement.
En textile décollage ou des...
Non, textile, habillement, mode,
ah oui, pardon,
design.
Oui. D'accord,
voilà.
Ok.
Donc, j'ai fait ça parce que... Pas parce que je voulais particulièrement travailler dans la mode, mais plutôt parce qu'en fait,
c'est le corps,
j'avais envie
qui
de
revient.
Tout faire. J'avais envie de tout faire. Et c'était là où je pouvais explorer le plus la matière plastique, en fait, et le côté artistique, plutôt que le côté industriel.
Plus le mouvement, évidemment.
Le mouvement, plus le corps, évidemment, qui revient. Donc j'ai fait ça. Et puis, une fois que j'ai fini, je n'avais pas du tout envie de travailler dans la mode, évidemment. Je le savais déjà à l'avance, mais bon, j'ai quand même fait ça. C'était intéressant.
Mais qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous en avez forcément retiré quelque chose
pour votre peinture? Je pense la maîtrise des couleurs. Mmh. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui caractérise un petit peu mon travail. La maîtrise des couleurs et puis une certaine harmonie aussi. Et puis, évidemment, le dessin du corps. Je pense que ça, c'est assez important pour ce qu'on a fait là aussi ensemble. Et puis, dans ma vie, parce que voilà, le modèle vivant, je pratique aussi régulièrement. À Pierre Vert, il y a une association qui propose des séances de modèle vivant toutes les semaines. Et puis, il faut dire aussi que moi, je suis enseignante de yoga. Donc, la pratique du yoga et la pratique du dessin, pour moi, ça a été une sorte de rencontre aussi qui faisait sens. Quand on pratique du yoga ou quand on pratique du dessin, on arrive aussi à une certaine concentration qui fait qu'on est vraiment dans l'instant et je peux ressentir un peu les mêmes choses, en fait, dans les deux pratiques.
Et un détachement aussi.
Oui, un détachement et en même temps une observation intérieure, mais aussi extérieure. Il y a
totalement.
Un peu cette dichotomie-là. Voilà, puis après j'ai travaillé dans autre chose, enfin toujours dans le domaine quand même du design, on va dire, intérieur maison, puis visuel merchandising, des vitrines, donc j'ai fait ça pendant quelques années pour l'Occitane. Et puis après j'ai arrêté, en parallèle je faisais ma formation de yoga, donc c'est vrai que j'ai commencé à donner des cours, puis il y a eu cette histoire de transmission en fait, je me suis rendu compte que la transmission c'était important pour moi. Puis ensuite, j'ai changé de boulot, j'ai voulu arrêter pour faire quelque chose de plus personnel et revenir justement à mon côté plus artistique. Donc moins industriel, moins dans les grandes boîtes, les gros problèmes qui n'en sont pas, des choses futiles. Donc là, moi, je voulais peindre, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'ai recommencé le modèle vivant et là, je me suis dit, bon, bah voilà, je crois qu'il faut absolument que je continue. Puis j'ai eu l'occasion de faire quelques expos à Manosque à l'époque où il y avait le... Ça s'appelait le coin des arts, je crois.
Le quartier des arts.
Non, le coin des arts, dans le quartier des arts, maintenant. Mais voilà, il y avait une association qui permettait de proposer des expositions d'artistes. Donc j'en ai fait quelques-unes. Et ça s'est bien passé, j'ai vendu pas mal d'œuvres, donc je me suis dit, bon, bah, peut-être que si j'arrive, voilà, si j'arrive à vendre suffisamment comme ça, je peux peut-être payer un loyer et voilà, ouvrir un atelier. C'était mon rêve un peu depuis toujours, quoi, d'avoir mon propre atelier.
Et c'est le cas
maintenant. Travailler chez moi. Et c'est le cas maintenant.
Bravo.
Depuis 3 ans et demi. Merci.
Le Scarabée Lab, c'est ça ?
Ouais, voilà, le Scarabée Lab atelier pour laboratoire et pour Scarabée, parce que j'ai une forte attirance, on va dire, pour la mythologie égyptienne. Et donc le Scarabée, c'est symbole un peu de renaissance, de liberté, de possibilité de se réinventer, en fait.
Vous connaîtriez le mot égyptien pour Scarabée ?
Qu'est faire, non, c'est une colle.
Ah, oui, c'était une colle un peu inutile. Claire, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé, des peintres ou tout
oui,
à fait autre?
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je pense que ça se voit dans mon travail, pour ceux qui connaissent, évidemment, Egon Schiele. Mm-hmm. Donc ça, c'est clairement un maître
du dessin, en tout
du
cas,
dessin ouais. Pour moi. Voilà. Après, j'aime beaucoup l'impressionnisme aussi, parce que justement, la couleur fait partie de mon travail à 100%. Cette harmonie des couleurs, cette recherche... C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc dans le mouvement impressionniste, et puis l'expressionnisme, justement, tout ce qui est Egon Schiele, Kokoschka, ouais. Ce mouvement-là, puis l'art déco.
Avec une petite part d'inquiétude quand même dans leurs œuvres. Hein.
Oui, alors c'est vrai que je pense qu'on peut dire aussi que dans mon travail, on trouve pas mal de... peut-être de mélancolie, je dirais, ou en tout cas d'inquiétude ou de mystère, quelque chose qui, en tout cas, ne dégage pas forcément de la joie.
Bah, c'est lié aux époques, hein, pour eux.
C'est lié aux
et
époques.
Et pour vous-même, peut-être, hein, l'on vit
ben,
pas.
Sûrement, je pense qu'il y a forcément un peu de ça. Voilà, donc c'est les pré-raphaélites aussi, justement, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est des mouvements qui m'intéressent, l'art déco, l'art nouveau. Donc, en fait, toute cette période un peu fin 19e, début 20e, je pense que c'est l'époque qui m'a le plus inspirée, on
va dire. Des périodes d'intense création aussi, hein, puis
oui.
Où les influences internationales commençaient vraiment à arriver. Enfin, je veux dire,
ouais. Et après, pour parler de quelqu'un de beaucoup plus actuel, j'ai eu une professeure quand je faisais mes études, qui s'appelle Katia Bourdarel, qui est une grande artiste contemporaine maintenant, qui expose beaucoup en ce moment et que j'adore. C'est magique, son travail, c'est l'hyperréalisme. Ça peut être de l'huile ou de l'aquarelle. Et on dirait vraiment des photos, mais en même temps, il y a quelque chose de très poétique qui s'en dégage. Et justement, on est un peu entre la limite, entre le mystère, l'inquiétude, et en même temps le féerique. Et voilà, ça, c'est une artiste actuelle que j'aime beaucoup.
Vous pouvez rappeler son nom ? Je ne connais pas.
Katia Bourdarel.
Katia Bourdarel. Ouais. Très bien, j'irai voir.
Elle était au musée d'Orsay il y a quelques mois, le cadre d'une exposition avec des artistes actuels qui faisait écho avec des œuvres du musée d'Orsay.
Un musée formidable. Hein,
ouais, moi, magnifique, c'est mon musée préféré, oui.
J'ai un faible pour un impressionniste qui s'appelle Albert Marquet, qui est vraiment... enfin bon, bref. On va parler d'Henri maintenant. Ouh. Henri, votre parcours a commencé hier
Avant-hier.
Avant-hier. Ouais, donc... Quels ont été les débuts, Henri? La photo.
Moi, j'ai toujours aimé la photo, mais en même temps, dès le début... j'étais un bricoleur. Faire une photo réaliste, c'était pas du tout mon truc, ça m'intéressait pas. Alors bien sûr, je faisais des portraits, comme tout le monde, mais j'étais pas très bon, c'était pas quelque chose... Et puis ça me satisfaisait pas, de toute façon, voilà, c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, dès le début, on remonte à l'époque de l'argentique, hein, tout se faisait au laboratoire, avec des produits chimiques, des choses comme ça. Et moi, j'ai beaucoup expérimenté, mais bon, à la suite de d'autres photographes connus, comme Denis Bria, là, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, ou Jean-Pierre Sudre, qui va être à Arles cette année, enfin, ses œuvres. Et donc, c'est des gens qui ont inventé une manière de faire de la photographie plasticienne. C'est les premiers qui ont fait des photos pour être accrochées sur des murs. Bria, ça a été le premier photographe à être exposé au MoMA de New York.
C'est la définition d'un plasticien
d'être... Oh, je ne sais pas si c'est la définition, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il travaillait, c'est comme ça que j'ai ressenti et que ça m'intéressait. Donc j'ai fait des photos sur des supports variés, je faisais des photos sur des supports aluminium, ou sur de la pierre, ou sur du tissu, enfin, j'ai fait toutes sortes de choses, et puis toujours dans la même optique de quelque chose de concret, mais dont on ne voyait pas au premier abord ce que c'était. Voilà, ça c'est vraiment le fil
ce
conducteur,
qui
voilà, c'est le fil conducteur de tout ce que j'ai fait, des sujets très différents. j'ai fait beaucoup, beaucoup de paysages, mais toujours pareil, mes paysages, ils ne sont pas très réalistes. Ils sont faits de telle sorte qu'il y a toujours une part de mystère ou de quelque chose qui n'est pas... On ressent que ce n'est pas tout à fait naturel, quoi, voilà. C'est ça que je recherche. Voilà.
C'est une façon aussi d'éveiller la curiosité, peut-être la vôtre.
Oui, la mienne en premier, et puis je me retrouve tout à fait dans ce que disait Claire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je maîtrise quelque chose, ça ne m'intéresse plus vraiment, je passe à autre chose. Voilà, ça c'est clair.
Ça, c'est les créateurs.
Ça fait plus de 50 ans que je fais ça, et quelquefois ça revient, parce qu'il est clair que là, je refais des choses qui sont en rapport avec ce que j'avais fait il y a quelques années, mais quand même, ça tourne. Ce que vous aviez vu l'année dernière, le monde à l'envers, c'est négatif, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, et c'est un peu, je pense que c'est d'expérience. Donc j'avais cette idée-là dans ma voiture. J'ai dit, je vais faire des négatifs. J'arrive chez moi, je fais un négatif, c'était pile poil ce que je voulais. C'était donc, après, tout était facile, parce que voilà, et c'est comme ça souvent, c'est un petit truc qui vous vient, on sait pas trop pourquoi, et qui fait que vous transformez un peu, mais en même temps, on voit que c'est vrai, que c'est réaliste, que ça correspond à quelque chose de réel. Et donc, j'ai toujours fait ça. Je peux faire ça avec des vitres cassées, je peux faire ça avec des craquelures dans la terre. Ça, j'ai énormément photographié ce qui était à mes pieds.
Ouais, elles sont très belles, vos photos. Je vous suis sur Facebook.
Voilà,
aussi.
J'ai fait toutes les plages. J'ai beaucoup voyagé aussi. Toutes les plages du monde où je photographiais ce que la mer laissait comme déchets ou comme craquelures ou comme traces dans le sable. Et j'ai beaucoup photographié les craquelures de terre.
C'est quelque chose lié avec le temps aussi, avec ce côté immobile ou.
Ouais, et puis bon, y a eu une photo. J'avais eu un gros prix avec ça parce que c'était une craquelure de terre, et en même temps j'étais arrivé quelque temps après et il commençait à y avoir quelques herbes qui repoussaient, donc c'était très symbolique parce que j'aime beaucoup le paysage, j'aime beaucoup marcher, je suis très écolo mais en même temps j'arrive pas à être quelqu'un de très pessimiste, donc là ces herbes qui repoussaient c'était tout à fait moi, j'ai beaucoup aimé cette série aussi.
Donc vous avez repris une photo après, au même endroit, lorsque l'herbe avait poussé.
Je fais énormément ça. Je fais énormément de travaux au long cours où je travaille sur un même sujet pendant des années. J'ai plusieurs trucs que je mène de front, mais sur lesquels je travaille très longtemps.
Donc Olivier a raison, il y a toujours un fil conducteur, c'est le temps dans vos photographies.
Ah oui,
et la transformation des choses
et
aussi.
Et puis, je ne suis pas du tout quelqu'un de pressé. Je fais des choses qui, techniquement, sont très très faciles, je veux dire, qui sont à la portée de tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de très sophistiqué dans sa technique, pas du tout. Mais je suis, par contre, par exemple, pour parler de photographie, mes cadrages, c'est l'essentiel de mon travail. Je ne recadre jamais. Je fais mon cadre quand je prends la photo.
En numérique également, vous ne recadrez jamais.
Jamais. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, ce que je cherche, c'est à faire le cadre, justement. Mmh.
À composer dans le cadre.
Le champ et le hors-champ,
oui.
Vous qui faites de la vidéo, vous savez ce
oui.
que c'est. Voilà.
Oui.
Donc, ça, c'est l'essentiel. Voilà.
Vous parliez hors antenne d'un voyage à Cuba.
Ah oui,
quel était le prétexte genre de
ce... C'était un échange avec des photographes cubains. Des photographes cubains étaient venus à Aix-en-Provence à l'époque. Et donc, il y avait un espèce de voyage-retour. Et donc, j'avais postulé. Puis, ils avaient choisi mes photos. D'ailleurs, des photos d'Andalousie, parce que en noir et blanc, ça leur parlait beaucoup. Pour eux, c'était un espèce de rêve d'aller en Espagne. Quand je suis arrivé là-bas, ils me demandaient, alors, tu es allé à Madrid.
C'est en quelle année, pardon?
C'était il y a 6 ou 7 ans, je ne suis plus tout à fait sûr. Et donc, c'était...
Oui, l'Andalousie, ça les...
Ah, ça leur parlait beaucoup. Et puis le fait que je connaisse l'Espagne et tout ça, parce que c'est un espèce de rêve pour eux. Et quand même, ils sentent des racines avec ça. Et donc, j'habitais chez l'habitant, chez des photographes. On avait exposé ensemble. Le lieu était magnifique. C'est la photothèque de Cuba. C'est vraiment
Vous étiez où, à La Havane?
À La Havane, oui, la photothèque de Cuba, sur la place Mayor, une vieille place à l'ancienne, comme ville coloniale, là, vous voyez.
Moi, je vois, à côté de la boulangerie.
Voilà.
À gauche.
Non, pardon.
Et c'était magique, à la fois pour le plaisir qu'ils avaient à voir quelque chose qui venait de l'extérieur, parce que, voilà, c'est ça aussi le sujet. Et en même temps, la simplicité, la bonhomie, la, sympathie.
Qui caractérise le peuple cubain.
Ah ben oui, tout à fait. Et puis bon, voilà, ma femme est andalouse, donc elle était comme chez elle. Eux, ils venaient énormément lui parler, lui raconter leur vie, et, parce qu'il y avait beaucoup de photographes beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr. Et donc c'est une expérience à la fois artistique et humaine exceptionnelle, qui est un voyage inoubliable.
Vous avez présenté vos œuvres là-bas, mais... Qu'avez-vous photographié sur place vous-même ?
Bah, j'ai photographié la vie de Cuba à ma manière, à moi. Alors.
Parce que là, des murs délabrés ou il y a de très belles photos mais à faire alors, sur les murs des maisons.
Honnêtement, je me suis pour une fois beaucoup plus intéressé aux gens et c'est un peu ce que je fais quand je vais en Inde. Je suis aussi un malade de l'Inde. J'y suis allé 15 fois et. Ah ouais. Et donc, ce que j'aime en Inde, c'est... Parce que le problème de l'Inde, c'est pas que les gens ne veuillent pas que vous les photographiez. Au contraire, ils viennent, ils posent, ils vous amènent les enfants pour qu'on les photographie, ainsi de suite. Et donc, pour avoir des images d'Inde qui ressemblent à la vraie vie, eh ben, il faut prendre les images à la volée. Et donc, c'est un stratagème que beaucoup de photographes ont. J'ai mon appareil sur le truc et j'ai un déclencheur. Je ne vise pas.
Ah oui,
Et je fais les photos comme ça.
C'est ce que vous avez fait à Cuba également ?
Exactement. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble à la vie de la Havane, parce que sinon, c'est très compliqué. Mais pas parce qu'ils ne veulent pas que vous les photographiez, mais c'est toujours un peu compliqué pour eux. Voilà. La vie est tellement difficile.
C'est un pays qu'on imagine presque en noir et blanc, de loin, sans avoir été...
J'ai fait beaucoup de clichés en noir et blanc, effectivement.
Contrairement à l'Inde.
Ouais.
Coloré.
Oui. Là, c'est carrément impossible de faire du noir et blanc.
Est-ce qu'on accepte d'emblée la situation de beaucoup de personnes, parce que l'histoire des castes ou de la pauvreté, ça marque.
Alors, ça c'est voilà. Moi, je l'ai. Bon, je fais partie de la première génération qui a pu voyager vraiment librement, enfin, où c'était accessible à des gens simples. Je veux dire, moi, j'étais pas riche du tout à l'époque, et on pouvait voyager. Donc, il n'y avait pas de problème avec l'hypertourisme et tout ça. On était presque les premiers, nous, aller en Inde, aller au Maghreb. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes avec les gens. Mais par contre, il y avait une distance. Les gens ne comprenaient pas du tout qui on était.
Ce n'est pas tant les problèmes que votre regard à vous sur cette pauvreté ou sur leur situation.
Alors, voilà. Moi, j'ai... Peut-être parce que, justement, je suis issu d'une famille d'émigrés pauvres et je ne le vois pas du tout de l'œil qu'on va profiter d'eux. Parce que moi, je sais que dans chaque pays où je vais, j'apporte quelque chose et même je crée des liens. Par exemple, en Inde, quel que soit l'endroit où on allait, parce que ma femme voyageait avec moi, on voyageait dans un endroit différent et on finissait toujours à un endroit... dans une famille qu'on avait découvert la première fois où on était allé en Inde et où c'était un rapport très chaleureux. Et c'est comme notre famille. Mmh. Là, je continue à converser avec eux, à leur fêter des anniversaires, à recevoir les photos des enfants. Et pourtant, voilà, on était là, on était chez eux, on leur payait la chambre et la nourriture. Mmh. Mais je pense que je n'ai pas profité de, si c'est ça le sujet de fond. Voilà.
Oui, non, ce n'était pas tant profiter, c'est de pouvoir encaisser, si je
voilà,
peux
dire, cette situation. La première nuit en Inde, on a failli repartir, parce que vraiment, c'était dur. Les enfants qui dormaient dans la rue, c'était extrêmement compliqué. Et puis le lendemain matin, on a commencé à se balader. Les enfants, ils vivaient leur vie à leur manière, à leur niveau, mais en même temps... pas d'abandon, les gens étaient solidaires les uns des autres, voilà, parce que quand on est dans la mouise, on se serre les coudes, quoi, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans tous les pays, c'est à peu près comme ça, quand on est dans la mouise, on se serre les coudes, voilà.
Oui. Alors, je voulais juste revenir à Cuba, vous disiez que vous avez beaucoup photographié Cuba en noir et blanc, alors je comprends que l'Inde, on ne puisse pas se passer de la couleur, mais à Cuba aussi, c'est un choix qui est assez radical de photographier...
Ben, c'est aussi à cause des photos que j'étais allé exposer là-bas, qui étaient des noirs et blancs d'Andalousie... avec où il y a un soleil très, très puissant, et à Cuba, c'est aussi costaud, il y a des ombres, il y a des lumières, et tout ça. Et puis, Cuba est tellement photogénique, a tellement été déjà photographié...
En couleur.
Je sais très bien, je connais un tas de photographes excellents qui ont fait un travail que je ne pourrais pas faire, donc ça ne m'intéresse pas, je vais essayer de montrer de ma manière à moi.
Ok, donc le noir et blanc, ça a été un choix qui est radical.
Et en se baladant comme ça, en faisant justement pour une fois des cadrages qui n'étaient pas très cadrés, mais auxquels je ne touchais pas, ça correspondait tout à fait à ma manière de me balader dans
un mouvement
voilà,
aussi,
exactement.
Un chaloupement,
voilà,
pour danser la rumba cubaine. Bon, alors on va pas écouter de la rumba cubaine ce matin. On va écouter.
Si j'avais su, Si j'aurais su, je l'aurais fait.
Mais on va écouter une très belle chanson aussi.
On va écouter une très belle chanson d'un artiste que beaucoup de gens aimaient beaucoup. Il s'agit de Max Romeo, disparu à l'âge de 81 ans le 11 avril dernier. Max Romeo, de son nom de scène Maxwell Livingston Smith, qui est donc un chanteur jamaïcain de reggae, chanteur, auteur, compositeur, on pourrait dire combattant aussi contre la pauvreté. Il a beaucoup œuvré aussi pour la protection des enfants. Et il était entré dans la légende de la musique avec le fameux morceau « Chase the Devil »,« Chasser le diable », paru en 1976 sur l'album « War in a Babylon ». En revanche, on va écouter un autre morceau extrait de cet album de 1976. Et le titre, c'est « Milk and Honey ».« Milk and Honey », c'est-à-dire le miel et le lait.
C'est bientôt la fin, non, il nous reste encore 10 minutes sur le plateau. Claire Farco, peintre, Henri Cartman, photographe, pour leur exposition Dialogue, du 26 avril au 4 mai à la Voûte des Arts. C'est à vous, messieurs, dames, Olivier.
Je rappellerai également donc le vernissage, c'est toujours un moment sympa. C'est samedi à 17h, au même endroit, à la Voûte des Arts, Alors Claire, on évoquait hors antenne vos autres activités, notamment une association de quartier très intéressante à Manosque.
Oui, alors en fait il s'agit du Quartier des Arts. Donc le Quartier des Arts, c'est une association d'habitants, commerçants, artistes et artisans d'un quartier de Manosque qui va de la porte Soubéran jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville à peu près.
Le plein centre de Manosque.
Voilà,
fait.
Le plein centre, le haut du, oui. Le oui. Haut du centre-ville de Manosque. C'est une association qui a été créée pendant le Covid. Moi, j'y suis arrivée quand j'ai installé mon atelier. Et en fait, bah, on essaye de promouvoir un petit peu la culture, les cultures, si j'ose dire, parce que c'est aussi l'idée d'organiser des événements multiculturels, notamment comme la fête des couleurs qui s'est passée le 29 mars dernier. Donc, c'est une fête indienne qui rassemble toute la communauté indienne. Voilà, il y a quelques années, on avait fait aussi le Nouvel An lunaire. Donc, on essaye de promouvoir en fait la culture et les échanges, en fait, aussi culturels, parce que sur Manosque, il y a quand même beaucoup d'expatriés.
C'est assez cosmopolite, hein, Manosque.
C'est très cosmopolite,
on s'en rend pas compte, mais c'est assez cosmopolite.
Tout ouais. À fait, mais c'est pas évident de rassembler, en fait, les différentes communautés. Donc, bon, il y a des super associations qui existent maintenant, que vous devez connaître. Voilà, je sais plus exactement le nom de l'association.
Alors, le centre social, la maison d'animation et de proximité, justement, il y a des jeunes femmes qui se sont regroupées et qui présentent, qui se réunissent et qui présentent chacune leur culture à travers des plats, les gens commencent à se réunir.
Ouais, il y a le comité interculturel aussi, l'amitié collectif interculturel, quelque chose comme ça.
Plume d'espoir, on avait reçu aussi.
Oui.
Donc il y a pas mal de... Voilà, c'est cosmopolite, donc c'est intéressant de rassembler ces personnes lors d'événements, mais aussi on essaie de promouvoir l'art. Donc dans ce quartier, il y a quand même de plus en plus d'artistes. Il y a un collectif d'artisans qui vend de la déco, de cosmétiques, un peu de tout.
L'atelier Calayan,
voilà.
Ah oui, ils sont venus. Ah, oui.
Il y a l'atelier de gravure aussi, Empreinte, qui est très connu, qui rassemble énormément d'adhérents aussi. Il y a un atelier de teinture végétale aussi, proche de mon atelier sur la place Marcel Pagnol, qui s'est installé récemment. Puis on est super contents parce que maintenant il y a la nouvelle librairie, La Somme de nos Folies, qui vient d'ouvrir. Donc ça, c'est un super lieu aussi pour le quartier parce que ça manquait aussi.
L'occasion de vous recevoir à plusieurs. Si plusieurs de ces intervenants souhaitent venir autour de notre table en parler, ce sera
avec plaisir. Et puis donc avec Charlotte Maillard du magasin Azadi, on gère ensemble une petite vitrine qui est juste en face, là, une vitrine en fait qui est un local inoccupé depuis quelques années et qu'on a récupéré pour exposer différents artistes. Donc toute l'année, bon, hors période de travaux actuels, on expose des artistes pendant 2 ou 3 semaines, qu'on estime intéressant et en tout cas pour qui ça peut être utile aussi d'oser aussi montrer en fait son travail. C'est quand même différent d'exposer dans un lieu. Où souvent les gens ont du mal à entrer parfois, c'est pas évident de rentrer.
C'est très compliqué.
Ni dans une galerie, moi je le vois dans mon atelier, ni dans une exposition. Alors que là en fait c'est une vitrine, donc les gens ils sont libres, ils peuvent regarder de l'extérieur et on a vendu quand même parfois certaines choses. Et donc c'est assez intéressant. Et puis c'est un lieu unique à Manosque parce qu'il n'y a plus d'endroit pour exposer pour les petits artistes. Il n'y a pas d'endroit comme ça, donc c'est assez dommage. Donc ça permet au moins une petite visibilité pour les artistes. Et puis. Moi, c'est juste dans mon quartier, parce que je suis sur la place Marcel Pagnol, et dans mon atelier, mais il y a aussi pas mal de transmissions dans ce quartier, parce que donc il y a l'atelier gravure qui fait des stages, l'atelier de teinture qui fait des stages aussi. Moi, je fais aussi des stages d'aquarelle, de peinture, de dessin pour les ados et les adultes, et c'est une partie de mon travail que j'adore particulièrement.
Comment vous contacte, Claire, si on souhaite participer à
ce stage? J'ai une page Facebook et Instagram, Scarabée Lab, et en général, toutes les infos sont aussi sur le site de la DLVA Manosque, l'agenda de la ville de Manosque.
Elles seront également sur la page de notre site, la publication de cette...
Voilà, oui, donc sur les réseaux, je communique pas mal, hein, justement, au niveau des stages. Et puis dans les groupes WhatsApp aussi, réseau culture, etc., on trouve plein d'informations maintenant. C'est super, ces groupes-là, ateliers stages, etc. Il y a pas mal d'infos intéressantes.
Et puis vous travaillez aussi la contemplation, si on
oui.
peut appeler ça comme ça. Vous
la
pratiquez le yoga,
ouais,
vous enseignez le yoga.
Je pratique le yoga depuis longtemps, peut-être 20 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé assez tôt et puis au bout d'une dizaine d'années, j'ai entamé une formation pour être enseignante. Enfin, à la base, c'était pas pour être enseignante, c'était parce que j'avais envie d'aller plus loin et que j'avais envie de découvrir un peu plus en profondeur. Puis finalement, comme beaucoup, en fait, quand on apprend, on a envie de transmettre. Et puis je crois qu'en fait, ça fait partie de mes missions de vie, visiblement, puisque la transmission, autant dans le yoga que dans l'art, en fait, c'est ce qui me nourrit au quotidien, hein, faut dire ce qui est. Et puis, ça me plaît. Donc maintenant, j'essaye de relier aussi ces deux passions et ces deux métiers. Donc, j'organise des stages sur plusieurs jours où on fait du yoga, bien sûr, mais aussi de la peinture, parfois de l'écriture.
C'est complémentaire.
C'est très complémentaire.
Ça a du sens.
Ça a du sens. Et quand on pratique du yoga, on est plus à même de dessiner derrière. Et parfois, même pendant mes stages de dessin, je fais quelques exercices de respiration. Je leur fais des exercices de mouvement intuitif. J'ai une approche pas du tout académique hein, dans la transmission du dessin. Chez moi, on ne vient pas apprendre des proportions, des trois quarts, des trois tiers, etc. pour le visage. On vient plutôt observer, ressentir, toucher son visage pour essayer de le dessiner. Enfin, voilà, j'essaye d'apporter vraiment une façon plus libre en fait, d'aborder la création.
Il y a un thème que vous souhaitiez aborder, c'est l'écologie également.
Oui, parce qu'en fait, dans les photos d'Henri sur lesquelles j'ai travaillé, bah, c'est clair qu'il y a une notion d'écologie qui est très présente et très puissante. Surtout qu'en plus, c'est des photos qui ont été photographiées, enfin des clichés qui ont été pris sur plusieurs années. Donc on voit bien le passage du temps. Alors c'est vrai qu'au niveau écologie, on voit tout ce plastique, toute cette destruction de la nature, ces déchets en fait qui volent, ces déchets qui sont là dans la nature. Et moi, j'ai vu dans ces photos... Alors j'ai projeté des histoires surtout, et j'ai vu des fantômes, des gens qui passaient là à travailler, j'ai vu des migrants, en fait j'ai vu tout ce que l'écologie et le dérèglement climatique peut amener aussi, des exils, des tragédies quoi, une fois de plus je pense, au niveau nature et aussi au niveau humain.
Elles y sont.
Voilà, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout parlé en fait quand tu m'as donné les photos, on n'a pas du tout discuté de tout ça. Non. J'ai juste reçu les photos, il m'a dit ta carte blanche. Et on n'a absolument pas communiqué là-dessus.
Je parle pas aux gens de mon travail, je veux pas d'ailleurs leur expliquer ce que j'ai voulu faire et tout ça. Et ce que j'attends, au contraire, c'est ce qui me renvoie à eux, de ce qu'ils ont vu.
On est dans l'ordre.
C'est ça qui m'intéresse.
On est dans l'ordre du ressenti, là,
et puis, avant tout.
Si
j'explique trop, je bloque quelque part la liberté d'interprétation de chacun. Et donc, c'est ça qui me plaît.
Oui.
C'est pour ça, là, je suis vraiment allée chercher sa vision, en fait, sans le savoir aussi. Mais j'ai vu des choses... de la destruction de la planète. Et en même temps, ce qui m'a... paru génial au fil du temps où j'observais ces photos, c'est que plus je les regardais, plus je les trouvais belles. Et je me suis dit, punaise, il est vraiment fort, quoi, parce que s'il y a une vision... c'est incroyable.
C'est son optimisme
justement,
naturel.
Justement, il y a ça. Et puis, comme il disait, le cadrage. Je pense que c'est incroyable d'arriver à rendre ces déchets aussi beaux, quoi. Il y a une lumière, une texture, une couleur. Et au plus je regardais, plus je me disais, waouh, c'est fort d'arriver à transmettre ce message-là de façon aussi subtile, en fait.
Mais on ne parle plus maintenant, presque plus, du cadrage, mais à l'époque, effectivement, de l'argentique, c'était très important, et ça l'est encore. Qu'est-ce qu'on va mettre dans et comment on va composer? Qu'est-ce qu'on va cadrer?
Voilà,
qu'est-ce qu'on ne va pas prendre et qu'est-ce qu'on va mettre dans le cadre? C'est un vaste, et tu sais très, très bien le faire. Il nous reste 3 minutes, on va se dire au revoir et on va partir en musique avec un très beau morceau. De Bussy.
En tout cas, si l'on souhaite des infos supplémentaires, il y a un site pour cette expo, donc.
Il y a le site de la Voûte des Arts.
D'accord.
Claire, elle est très présente sur les réseaux sociaux.
Malheureusement. C'est le meilleur moyen pour communiquer, mais bon, c'est pas très
bon. Ça peut être heureux, tout dépend de la façon dont on s'en sert.
Moi, j'ai un site internet où il y a l'essentiel de mes photos.
C'est Henri Cartman.
Voilà, henricartman.com, que j'essaye de changer régulièrement. Et puis
YouTube aussi, pas mal de vidéos.
Oui, j'ai pas mal de vidéos parce que j'ai beaucoup fait, un peu à cause des Mille Pierres Vertes, de montage vidéo, d'images fixes. Donc, j'en ai fait beaucoup pour moi. Je sais pas, je crois que j'en ai une vingtaine ou une trentaine. Ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi de lier l'image fixe et la musique. Donc ça, c'est une des choses qui me plaît le plus. Trouver des musiques appropriées. Voilà.
Encore une autre aventure.
Voilà, encore une autre aventure. Exactement.
Encore merci à tous les deux, Claire Farco, Henri Cartman, d'avoir été présents. Merci beaucoup à Nathalie d'avoir, en plus de cette interview réalisée, enfin, s'est occupée de la régie. Hein,
Ben, ça me plaît, j'adore ça.
Voilà. Dans son élément.
Allez-y, du 26 avril au 4 mai à la Voûte des Arts, l'exposition Dialogue, peintures à Pierre Vert, oui, des peintures de Claire Farco, d'après des photographies de Henri Cartman. On se quitte en musique avec une très belle musique d'ailleurs, qui est le thème de l'eau.
Reflet dans l'eau.